Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de parler des avancées dans la prise en charge des addictions. Danger méconnu, l'alcool tue et même massivement. C'est la deuxième cause de mortalité en France, 49 000 décès par an contre 73 000 pour le tabac. On a d'ailleurs tendance à surestimer la dangerosité des produits illicites, comme par exemple le cannabis, et au contraire à sous-estimer celle de l'alcool. Dans le monde, d'après l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'usage nocif de l'alcool entraîne 3 300 000 décès chaque année. Alors, alcool, cannabis, cocaïne, quand parler d'addiction? Quels sont les moyens de prise en charge? Où en est d'ailleurs la recherche sur ces questions de dépendance? On en parle à l'occasion de la 9e édition du Congrès international d'addictologie de l'Albatros, qui va se dérouler les 11 et 12 juin prochains à la Maison de la Mutualité à Paris. Avec moi donc pour en parler, le professeur Amine Benyamina, psychiatre responsable de l'unité fonctionnelle d'addictologie à l'hôpital universitaire Paul Brousse à Villejuif. Il est coordonnateur de ce congrès de l'Albatros. Et avec nous qui arrive de Dakar, le docteur Viviane Cissé Diallo, infectiologue au CHU FAN de Dakar au Sénégal. En fin d'émission, on parlera de la fréquence des naissances de bébés à petit poids dans les familles défavorisées. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous souhaitez intervenir, le 33 1 84 22 75 75. Professeur Amine Benyamina et docteur Viviane Cissé Diallo, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là. Professeur Amine Benyamina, vous êtes aussi porte-parole du Fonds Action Addiction. L'Assemblée nationale examine en ce moment en France un amendement qui faciliterait la publicité sur l'alcool. Et ça vous inquiète? Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs.
Oui, c'est inquiétant parce qu'on voit avec petit à petit que la fameuse loi Evin dont on avait été, et on reste toujours très fiers parce que c'était une avancée de santé publique extrêmement importante, est grignotée de plus en plus.
Alors, cette loi Evin qui, justement, limite la publicité sur l'alcool pour éviter d'inciter à la consommation.
Absolument. Ah, évidemment, depuis que la loi Evin est sortie, il y a eu des canaux de publicité différents et importants.
Et d'où même, Internet.
D'où Internet. Et il y a un truchement, d'abord, sur la définition même des produits, alcool, tabac. Donc, on glorifie d'une certaine manière l'hédonisme, le jeûnisme.
Le plaisir.
Le plaisir et la modernité. À travers des canaux nouveaux, des canaux modernes. Et pour le coup, on a le sentiment qu'on n'est pas dans la cible de la loi Evin. Alors, qu'on est complètement dedans. Donc l'esprit est perturbé, l'esprit n'est plus respecté. Et donc forcément, on a affaire à des lobbies extrêmement bien organisés qui ont leur relais très puissant à l'intérieur de la représentation parlementaire en France et qui arrive et qui aboutissent à des résultats comme cet amendement qui est un amendement absolument, d'ailleurs, scélérat, anti-santé publique et porté par des parlementaires, travaillé par les lobbies. C'est la réalité des événements actuels.
Et là, justement, vous avez du mal à vous faire entendre là-dessus?
On a réussi quand même... Bon an, mal an, il y a quelques jours, à peut-être attirer, sensibiliser les décideurs politiques.
Dont la ministre de la Santé. Hein,
absolument, qui est sensible. Hein, il faut reconnaître
qu'elle s'est prononcée contre cet amendement.
Tout à fait, c'est pas la seule, mais évidemment, sa voix compte. Mais on se rend bien vite compte que le camp d'en face, le camp adverse, pour le nommer, s'est rapidement remis sur selle. Et a de nouveau, probablement, l'actualité montre qu'ils ont de nouveau reproposé un autre amendement. Donc, ça va être une bagarre pour laquelle il faut que les Français soient prévenus. Ce sont des choses qui se trament en coulisses, mais qui ont une importance majeure pour notre santé.
Et pourtant, quand on parle de dépendance, hein, l'alcool est absolument omniprésent. C'est probablement un des plus gros problèmes en termes de monde. J'aimerais que vous nous disiez un mot sur une enquête annuelle sur les drogues du Global Drug Survey qui, justement, montre ce problème de l'alcool.
Alors, évidemment, c'est une très belle enquête. Hein. Elle a été publiée de manière... On n'a pas suffisamment mis de publicité sur celle-là. Je vous remercie, Claire, d'en parler.
Il y a eu une double page dans Libération lundi, si je ne me trompe.
Tout à fait. Donc, je l'ai lu avec plaisir et délectation. Alors, évidemment, là, l'enquête a été faite différemment que celle que l'on fait habituellement, parce qu'on a interrogé les consommateurs.
En revanche, c'est pas une enquête scientifique entre guillemets, mais c'est en tout cas une enquête de population assez intéressante.
C'est une enquête entre les méthodes, la méthodologie scientifique rigoureuse entre guillemets, et le sondage. Et donc, mais ça nous donne un éclairage intéressant puisque ça vient conforter les enquêtes comme celle de l'OCDE qui est sortie il y a un mois, dans lequel on voit l'extrême importance de la présence de l'alcool, notamment chez les femmes, avec des pourcentages au-delà de 20 à 30% supplémentaires par rapport aux enquêtes usuelles. Et ça montre aussi la manière avec laquelle les drogues sont en train de se positionner en 2015. Le cannabis, la cocaïne, on voit. Et donc, c'est vraiment une enquête naturalistique, mais qui vient conforter les enquêtes scientifiques. Et avec, à la fin, ce qui est intéressant, une conduite pratique qui est moderne, c'est-à-dire, au lieu de lutter de manière prohibitionniste contre les drogues et l'alcool, il faut, entre guillemets, le terme n'est pas beau, mais ils disent accompagner et réduire les dommages et les risques liés à la consommation.
C'est ça, des politiques de réduction des
Absolument.
Risques. Ce qu'on dit beaucoup et pas forcément interdire, ça marche pas. Il sort quand même de cette enquête qu'en France, un tiers des buveurs d'alcool aimeraient consommer moins. Donc ça veut dire qu'ils ont bien conscience de consommer trop et qu'il y a un problème. Docteur Vivienne Cissé Diallo, merci d'être avec nous. Vous arrivez de Dakar. Quels sont, quand on parle de dépendance, justement, quels sont les produits principalement utilisés au Sénégal?
Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, Claire Edon, de m'avoir associée à cette émission à côté de notre maître et professeur addictologue, professeur Benyamina, qui est bien connu du fait de ses écrits et du fait de l'enseignement.
Donc, je suis... Et très bon intervenant chez nous dans Priorité
voilà.
Santé, on peut vous
dire. Donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce que j'ai été formée quand même dans son DU d'addictologie.
Vous êtes venue faire le DU, le diplôme ici, et vous êtes rentrée au Sénégal.
Oui, je suis rentrée au Sénégal. Donc, récemment, je suis revenue il y a une semaine, comme je vous avais dit tout à l'heure.
Donc, alors, quelles sont les drogues, et pas que les drogues, enfin les produits qui apportent une dépendance, qui sont principalement utilisés au Sénégal?
En fait, on peut dire que c'est quelque chose de nouveau qu'on vient de découvrir ici, mais il faut noter que le phénomène de consommation de drogue au Sénégal, en fait, sévit depuis 1980, avec surtout l'arrivée de l'héroïne par la voie injectable. Donc, une enquête récemment qui a été faite en 2011 a révélé que plusieurs drogues sont consommées à Dakar, à savoir l'héroïne. Dans 91%, c'était l'héroïne. Puis vient en second lieu le cannabis, 61%. Et à côté de ça, il y avait quand même le crack, la cocaïne. Et les autres produits, tels que l'alcool, dans 49% des cas. Et les benzodiazépines, quand même, qui occupent peut-être une petite place sur la liste. Donc, on peut dire que toutes les drogues sont consommées là-bas, à Dakar.
Ce qu'on peut retrouver aussi en France. Alors, tout neuf, Mandy est allée rencontrer deux lycéennes en classe de première. Hortense, 17 ans, Astrid, 16 ans. Toutes les deux, vers l'âge de 14-15 ans, elles ont commencé à consommer du purple drink. C'est en fait un mélange de sirop à base de codéine, de sirop contre la toux, avec du Sprite ou en fait un soda. Aujourd'hui, elles s'en sont sorties. Elles racontent comment et pourquoi, justement, elles se sont mises au purple drink.
Quand j'ai découvert ça, que j'ai aimé, du coup, j'en prenais de temps en temps, genre une fois par mois ou une fois toutes les trois semaines. Mais très vite, ça a été toutes les semaines, puis trois fois par semaine. Parfois, je pouvais rester plusieurs jours droguée. Et le purple drink, c'est vraiment le truc plus fort que j'ai testé.
Parce qu'avant, vous preniez d'autres drogues?
Je fumais et je buvais, mais c'est tout.
Pourquoi êtes-vous passé au purple drink? Pour faire comme dans les clips, pour faire la fête ou juste pour planer?
Au début, j'en prenais le soir et c'était vraiment pour planer en fait. C'était pas du tout pour faire comme dans les clips ni rien. Parce que dans mon entourage, personne connaissait ça.
Vous étiez au courant des risques?
Oui, j'étais au courant des risques, mais on n'est jamais vraiment au courant avant de s'en être rendu compte soi-même en fait. C'était plus un mythe. Au début, on pense toujours qu'on contrôle, mais non, on contrôle pas sa consommation. J'ai été accro vraiment à ça pendant un an et là, ça fait 3 mois que j'ai totalement arrêté.
Comment vous vous en procurez?
Dans les pharmacies, parce qu'en fait quand j'ai commencé c'était pas très connu, donc je pouvais acheter plusieurs boîtes, plusieurs sirops d'un coup, mais ça s'est répandu dans les médias et tout, et à la fin parfois ils me disaient non, on peut pas t'en procurer, à la fin c'était plus dur. Mais en plus c'était pas cher aussi, du coup on pouvait en acheter vraiment quand on voulait.
Quel effet ça vous fait quand vous êtes défoncé au purple drink?
Waouh. C'est vraiment la fois où j'étais le plus défoncée de ma vie. Codéine et DXM, donc gros purple drink. J'arrivais même plus à parler à la fin. Enfin, tellement loin de la réalité que c'est malsain. Genre, quand j'ai arrêté ça, mais j'avais l'impression que ma vie était vide et plate. Parce que quand t'es sous DXM ou sous purple drink, il se passe tellement de choses dans ta tête qu'après, en arrêtant, enfin, même si tu fais rien, t'as l'impression de faire des trucs de ouf. C'est vraiment dur à expliquer. Ça retourne vraiment le cerveau. On n'est pas du tout lucide. Par exemple, en effet... secondaire, j'avais des démangeaisons, je me grattais énormément, je pouvais absolument pas manger, j'arrivais pas à dormir, et parfois mes mouvements étaient totalement saccadés. J'agissais vraiment comme un robot. Je pouvais avoir des hallucinations, les yeux fermés, les yeux ouverts. Parfois, je pouvais ne plus bouger du tout.
À quelle fréquence vous en preniez ?
À peu près tous les jours. Parfois, dès le matin, je me réveillais, j'allais en acheter. Et j'en prenais toute la journée.
Et vous êtes agressive quand c'est comme ça ?
Pas forcément agressive. En fait, on a des phases. Parfois, j'aurais pu être énervée, mais parfois, j'aurais pu être très gentille. Ça dépend, vraiment. On n'est jamais dans le même état.
Vous habitez encore chez vos parents ?
Oui, j'habite encore chez mes parents.
Comment ça se passe avec les parents, alors, quand c'est comme ça ?
Justement, en fait, j'en prenais tellement que j'ai arrêté d'aller en cours. Et c'est pour ça que je fais les cours à la maison maintenant. Et avec les parents, il y a eu quelques tensions parce que justement, j'allais plus en cours. Ils voyaient que j'étais tout le temps défoncée et tout. Donc ça s'est pas très bien passé, mais là, ça va mieux.
Quelles conséquences cette addiction a eu dans votre vie ?
Après un an et demi, j'ai déjà saigné plusieurs fois de la gorge, genre je crachais du sang. Et oui, comme à la base, c'est un médicament pour la toux, à forte dose, ça fait l'effet inverse. Donc ça rend malade, en fait. Dans mon cerveau, ça a dû faire quelques dommages quand même, parce que quand j'en prenais, j'arrivais plus à me concentrer. Si je lisais un texte, je le lisais sans le lire. Et j'ai eu des troubles de la personnalité, je les ai encore alors que j'en prends plus.
Comment en êtes-vous arrivée à vouloir arrêter ?
Arrêter parce que quand je suis arrivée à me rendre compte que quand j'en prenais, j'étais pas du tout défoncée comme avant et que ça me faisait plus à la fin d'effets négatifs que positifs, je me suis dit que ça servait plus à rien d'en prendre. On vit plus en phase avec la réalité, en fait. Le matin, je me levais, je prenais ça, j'allais voir mes amis, mais on faisait rien. Vous pouvez être assis sur un banc avec deux amis pendant 3 heures et vous aurez l'impression de faire des trucs de ouf alors que vous faites rien. J'en avais marre de rien faire. Je voulais un peu prendre ma vie en main et du coup, j'ai arrêté.
Vous avez arrêté complètement,
ouais.
Sans rechute.
Ça fait 4 mois que j'en ai pas pris, mais je vous cache pas, j'en ai toujours envie. Vraiment, genre, c'est dur de plus en prendre, mais je sais que ça sert à rien que j'en prenne parce que ça me fait plus rien de toute façon. Si cette drogue me faisait encore de l'effet, j'aurais continué. Et ça qui est triste, c'est que j'étais tellement accro à cette drogue que, c'est malsain, quoi. Tu peux pas t'arrêter quand tu commences à en prendre. Mais maintenant que, genre, je suis hors de ça, c'est maintenant que je me rends compte que j'étais vraiment, mais tellement loin de la réalité. Enfin, c'est vraiment un truc de toxicomane.
Comment vous avez fait ? Où avez-vous eu la force d'arrêter ?
En fait, c'est pas une dépendance, c'est surtout une accoutumance. Enfin, j'avais l'impression que la vraie vie, c'était quand j'en prenais. Et du coup, les effets diminuaient, à la fin, ça me faisait presque rien. Et c'est mon psy, du coup, j'allais voir un psy aussi, parce que j'avais des problèmes en parallèle, et c'est lui qui m'a motivée à arrêter. Et j'ai pas eu vraiment de mal, c'est vraiment la motivation, parce que c'est pas addictif dans le corps, c'est dans la tête.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des addictions avec le professeur Amine Benyamina et le docteur Viviane Cissé-Diallo. Professeur Benyamina, j'ai envie que vous réagissiez à ce témoignage assez incroyable d'Hortense et Astrid, assez lucide sur ce qui leur arrive toutes les deux.
Complètement édifiant,
inquiétant.
Inquiétant surtout. Et puis, pour tout vous dire, on n'a pas encore dans les services d'addictologie comme le nôtre ce type de cas, mais nous savons qu'ils existent. Et là, c'est important d'entendre ce témoignage parce que quand même, si je fais une traduction entre guillemets médicale ou scientifique, elle consomme des produits qui sont de la même famille que l'héroïne.
Et que c'est des opiacés. La codéine.
Évidemment. Oui, bien sûr, c'est un dérivé. Et donc, on a affaire à ce qu'on a appelé pendant très longtemps, et de manière d'ailleurs injuste et mal, les drogues dures. Mais toutes les drogues sont dures, dans la mesure où les dommages sont installés. Et là, évidemment, elle dit qu'il n'y a pas de dépendance parce qu'elle n'a consommé qu'un an, un an et demi, et qu'elle est jeune, elle a une capacité à rebondir, elle est dans l'abus, et avec des dommages qui commencent à s'installer. Mais les risques sont extrêmement importants. Et heureusement qu'elle a rencontré un psy qui l'a aidé. C'est absolument effrayant.
C'est quand même très, très inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est l'utilisation justement de cette codéine, donc de ces médicaments détournés.
Alors, peut-être c'est l'occasion de, encore une fois, à travers vos ondes, d'attirer l'attention sur les pouvoirs publics, sur la liberté de s'octroyer de la codéine dans les pharmacies. C'est un vrai scandale. La codéine se trouve partout cachée. Alors évidemment, il y a le néocodion que tout le monde connaît, mais il n'y a pas que ça. Il y a le paracétamol.
Il y a de l'aspirine codéinée.
Le doliprane, le paracétamol, le codoliprane. On a de la codéine partout.
Et ça devrait être que sur ordonnance.
Évidemment. Et puis, c'est limité. limitée, en dehors du fait qu'on a une vraie toxicité au niveau du foie, par exemple pour le paracétamol, la codéine est présente. Et là, si ça commence à toucher les jeunes, c'est compliqué. On avait le modèle de la femme mûre qui avait mal à l'épaule parce qu'elle a entre guillemets des rhumatismes, qui à la faveur d'un soulagement s'est sentie bien dans sa tête et qui a augmenté les doses.
Sa consommation de codéine.
Voilà, donc on en a quelques-unes qui viennent comme ça, ce qu'on appelle des addictions
médicamenteuses,
accidentelles, mais là c'est une recherche volontaire pour un but précis. Et là, on devrait vraiment se pencher sur ça.
Sur cette question et voir comment faire. On a Marc qui nous appelle de Kinshasa. Marc, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Marc.
Oui. J'interviens par rapport au sujet d'aujourd'hui en émettant une inquiétude par rapport à l'alcool. Mon inquiétude est de voir que dans beaucoup de pays, l'alcool est toujours considéré comme une drogue sociale. Donc, elle n'est pas soumise à une législation rigoureuse. Et on trouve même des publicités dans le média qui exaltent les bienfaits prétendus de l'alcool au lieu de réprimer sévèrement cette drogue qui nous cause beaucoup de dégâts sanitaires et de dégâts économiques dans la...
Et du coup, Marc, vous souhaiteriez quoi?
Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les États prennent en charge la répression de cette drogue qui cause beaucoup de dégâts, au même titre que...
Mais Marc, quand vous dites répression, vous dites quoi? Il faudrait interdire l'alcool?
Pas interdire l'alcool, parce que...
Ça marche
tout
pas.
Tout
ce
qu'on interdit est toujours sujet à des exaltations.
Mais
moi, ce que je propose, c'est quoi? Que les États prennent des législations rigoureuses. Des sanctions face à ceux qui font la publicité à la gloire de l'alcool.
C'était mais vraiment aussi, ce dont on parlait, Marc. C'est important, je voudrais vous faire réagir là-dessus, professeur Beniamina. Effectivement, il ne s'agit pas d'interdire. On sait que l'interdiction, non. Ça ne marche pas. Hein. D'ailleurs, vous le dites sur l'ensemble des drogues aujourd'hui.
Bien sûr. Simplement pouvoir mettre en place une politique d'alerte et de prévention et protéger les personnes qui n'ont pas la possibilité d'être alertes vis-à-vis de ces publicités et des messages qui leur sont adressés. Actuellement, on a deux cibles importantes, ce sont les jeunes, tout sexe, et puis les femmes. Parce que, on l'a souvent dit, ici, dans cette émission.
Pendant longtemps, on a eu l'impression que les femmes étaient un peu en dehors de ça.
C'est pas le cas, puisqu'on a organisé, finalement, du marketing à l'adresse des femmes. La couleur, le packaging, comme on dit dans le jargon du marketing, et à la manière avec laquelle on va féminiser l'alcool, et donc c'est là où réellement on a beaucoup d'efforts à faire. Et ensuite, pour tout le monde, montrer la réalité du coût de l'alcool. L'alcool coûte cher pour la personne et coûte cher pour la société.
Vous trouvez la même chose, docteur Viviane Cissé Diallo, c'est que les femmes aussi au Sénégal commencent à boire?
En fait, chez nous, c'est dans un contexte un peu différent. Le Sénégal, c'est un pays à majorité musulmane.
Donc, on n'est pas censé boire.
On n'est pas censé boire, mais il faut se dire la vérité. Il y a quand même un lot quand même de personnes, que ce soit des femmes ou bien des adolescents, qui sont quand même ciblés par ce phénomène alcool. En fait.
Et justement, vous voyez en ce moment de plus en plus de femmes concernées par ça, ou justement, comme c'est tabou, plus ou moins interdit par la religion, vous avez encore plus de mal à les voir en consultation?
Voilà, est-ce qu'elles viennent consulter? Mais bon, même si elles ne viennent pas consulter, il faut se dire en fait que c'est les hommes que jusque-là qui dominent au Sénégal,
oui,
par rapport à l'alcool.
Sur
cette question d'alcool.
Professeur Beniamina, le grand problème, merci beaucoup Marc pour votre intervention de Kinshasa, sur ce problème d'alcool, c'est qu'en plus, les gens mettent énormément de temps à consulter parce qu'on nie le problème.
Alors, on nie le problème, c'est parce que l'alcool a cette capacité, hélas, à être à la fois un média du plaisir et de la convivialité, et ça peut être à un moment donné une vraie prison, un vrai problème. Et alors, c'est la frontière qui est difficile, et cette frontière offre un espace de déni pour les personnes qui consomment. On est souvent alcoolique par rapport à l'autre, ou l'autre est toujours plus alcoolique que soi. Et donc c'est là où il est très important d'être organisé et de faire le recueil des dommages installés ou des risques qui sont en train de nous guetter.
Déni du consommateur d'ailleurs, mais
absolument.
Très souvent de son entourage aussi, toute la famille.
Parfois même des soignants.
Et même des soignants. On se retrouve, si vous voulez bien, dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler des addictions. 33 1 82 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des addictions, alcool, cannabis, cocaïne. D'ailleurs, quand parler d'addiction, quels sont les moyens de prise en charge? On en parle à l'occasion de la 9e édition du Congrès international d'addictologie de l'Albatros avec le professeur Amine Benyamina, psychiatre responsable de l'unité fonctionnelle d'addictologie du CHU Paul Brousse à Villejuif, et le docteur Viviane Cissé Diallo, infectiologue au CHU de Fan à Dakar, au Sénégal. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 84 22 60 75. Je voudrais vous lire le message d'un auditeur qui nous a laissé un message en parlant d'un ami qui boit. Et manifestement, comme on a cherché à l'appeler, on se demande si c'est pas lui qui est concerné. Au début, on sortait ensemble avec quelques collègues, mais on a constaté l'ampleur du problème. Lui, il continue à boire, il maigrit. Quand on essaye de lui dire de réduire, il nous dit que c'est ça le distrait, ça lui fait du bien. Et autrement, du coup, il reste à la maison. Son état de santé se dégrade. Il a des œdèmes faciaux et même quand il a pas d'argent, il en demande pour aller acheter de l'alcool. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Qu'est-ce que l'entourage peut faire?
Ben, on a affaire probablement, si la description se traduit par des termes de médecine tout court, ou bien de santé, on a affaire à quelqu'un qui est dans un état de dépendance à l'alcool bien avancé, avec probablement des dommages somatiques installés.
Quand on parle de dommages somatiques, c'est-à-dire
des problèmes de physique. Mmh. On a des répercussions sur le corps.
Sur le corps. Entre autres. Quelles sont ces répercussions de l'alcool?
On a des zones cibles, ou des organes cibles, pour faire court, comme on dit.
Le foie.
En français avez... simple, comme vous dites ici. qu'est-ce qu'on a? On a le foie, on a le cœur, on a le cerveau. Les grandes cibles, mais l'alcool est responsable directement d'une trentaine de maladies du corps et de une soixantaine de maladies indirectement. Mais globalement, on a toutes ces cibles. Et hélas, dans le malheur de ceux qui sont dans le déni de la consommation, lorsqu'on a un problème somatique, physique qui apparaît, c'est une occasion pour justifier d'aller voir le médecin. Et à travers la porte d'entrée d'un corps malade, objectivable, matériellement, on va peut-être avoir l'occasion de parler de problèmes d'alcool. Mais c'est jamais tard.
Et la question que posait cet auditeur, que je trouve, enfin, que beaucoup se posent, mais comment l'entourage peut aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour
avant l'arrivée de c'est difficile.
Comment entre guillemets traîner le patient chez le médecin? Parce que c'est ça, ils n'ont pas envie d'y aller.
Eh bien, il y a toutes les manières sont bonnes. Moi, il m'arrive avec certains patients de leur dire utilisez le chantage, utilisez la menace, utilisez ce qu'il y a lieu de faire. On récupérera les choses ici.
Ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent vous voir.
Ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent nous voir et qu'on essaie de transformer une contrainte en une dynamique de motivation.
Docteur Viviane Cissé Diallo, j'aimerais qu'on parle de ce qui se met en place à Dakar, au Sénégal, en termes de prise en charge des addictions. Il y a un premier centre qui vient d'ouvrir. Racontez-nous.
Effectivement, c'est le tout nouveau centre maintenant. On peut dire que c'est le premier centre, aussi bien à Dakar qu'en Afrique de l'Ouest. Ce centre est appelé CEPIAD. C'est-à-dire le Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar.
Donc, CEPIAD.
CEPIAD. Donc, il porte bien son nom. Parce que si on dit centre de prise en charge intégrée, il n'y a pas que l'addiction qui sera prise en charge là-bas. Comme vient de le dire professeur Benyamina, à côté de cette addiction, il y a d'autres problèmes. C'est des problèmes somatiques, organiques, n'est-ce pas? Donc, en plus, on fait de la prise en charge des addictions telles que les drogues. Dans ce centre, ce qu'on fait, c'est le traitement de substitution aux opiacés pour les patients qui prennent l'héroïne ou bien les...
Et ça, c'est une première, là, justement, au Sénégal, l'introduction
c'est une première
du
au Sénégal.
Quoi, du Subutex, en fait, c'est ça?
L'introduction, on a juste commencé, pour le moment, avec la méthadone.
Avec
la méthadone. Donc, à part ça, il y a la prise en charge des addictions... Il y a le conseil et le dépistage VIH. C'est pour cela qu'il y a en fait le rôle de l'infectiologue là-dedans. Parce que
oui, c'est pour ça que vous êtes là, vous.
C'est pour cela même que je suis là-bas. Donc, parce qu'il y a une enquête préliminaire qui a montré quand même que c'est des populations clés quand même. Et la prévalence est à 9,2%, voire 5,2%. Donc, c'est quand même une cible dans la lutte contre ce fléau. Donc, dans ce centre, en plus de la prise en charge des addictions, on fait, en fait, le conseil et le dépistage pour le VIH, on a commencé, pour l'hépatite C et pour l'hépatite B. Et dans cette même lancée, il y a même un traitement dans un projet qui a débuté, ils pourront être pris en charge par rapport à l'hépatite C. C'est des médicaments qui coûtent excessivement cher, mais avec l'aide, en fait, de notre professeur, grâce au plaidoyer qui a été fait, on a les médicaments qui seront bientôt disponible. Parce que l'étude a été déjà proposée au ministère et on va bientôt démarrer pour le pour la prise en charge de l'hépatite C. Parce que vous savez aussi que l'hépatite C, en fait, la prévalence est à 22% chez
les consommateurs. Dans les consommateurs de drogue.
Plus importante que la HIV.
Oui, plus Amine Benyamina, pardon.
Non, elle est plus importante que la HIV, que le SIDA.
Que le SIDA,
que le SIDA, effectivement. Oui.
Et alors, ce centre est situé où?
Ce centre est situé au sein de la psychiatrie, au sein de l'hôpital Fan même.
Au sein du service de psychiatrie, d'accord.
Voilà, ça fait partie quand même du service de la psychiatrie.
Et alors, qui vient vous voir? Est-ce que j'évoquais tout à l'heure où c'est difficile de faire venir quelqu'un? Comment ça se passe? Qui vient vous voir?
En fait, le centre a ouvert ses portes depuis 2014, inauguré en décembre 2014.
Récemment,
mais il faut savoir qu'il y a eu un travail qui a été abattu en amont de ce centre. Donc, c'est un travail qui a été abattu par l'équipe de terrain quand même. Il y a une équipe de terrain, une équipe mobile, donc qui sillonne quand même les quartiers de Dakar et de sa banlieue pour essayer de repérer. Donc cette équipe est constituée non seulement de pairs, mais aussi d'éducateurs sociaux, donc qui amènent les malades. Et du bouche à oreille, les gens en fait se disent la chose et ils viennent.
Ça commence à se savoir et donc
ça commence à se savoir. Mmh. Il faut dire que le centre refuse du monde en ce moment. Ah. La demande, elle est très forte.
Très important. Donc
très
ça marche bien, les gens comprennent à quoi ça sert. Ouais. On a Adnel qui nous appelle de Saint-Louis, Haïti. Adnel, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'intervenir dans Priorité Santé. Il est très tôt pour vous le matin, mais vous vouliez absolument intervenir. Alors, on vous écoute.
Oui. C'est un phénomène qui se déroule depuis le lendemain du tableau de terre de 2010. Il y a une sorte de courant de la même côté et qui s'est installé en Haïti par rapport avec le Canada.
Je suis désolée, Adnel, je vais être obligée de vous interrompre. La ligne téléphonique est vraiment trop mauvaise. On n'arrive pas à vous comprendre. Mais comme c'est important que vous interveniez, je comprends bien que vous êtes en train de nous expliquer l'augmentation de la consommation de drogue finalement suite au tremblement de terre quand les gens se sont retrouvés désœuvrés. Je pense que c'est important que vous témoigniez. On va essayer de vous rappeler pour avoir une ligne téléphonique un peu plus correcte. Entre-temps, j'aimerais bien, professeur Benyamina, qu'on parle des dernières études sur la prise en charge de l'alcool avec un nouveau traitement, enfin, ou un traitement qui n'était pas utilisé avant, pour ça qu'il y a le baclofène. On en est où? Il y a eu une première étude BACLAD qui a été publiée assez récemment. Est-ce que les autres études françaises sont en cours de publication?
Ce qui est sûr, c'est que les deux protocoles sont terminés. Deux protocoles, un protocole en ville qui s'appelle Bacloville et un protocole à l'hôpital qui s'appelle Alpadir. Donc les deux, les recrutements sont terminés. La base de données est en train d'être exploitée, est en train d'être analysée et probablement que avant même les publications, il y aura des communications officielles parce que c'est porté d'abord l'une par l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'autre par un partenaire privé, l'industrie pharmaceutique. Et donc forcément, on aura des résultats. Alors, je n'ai absolument pas les résultats, bien qu'ayant fait partie du comité scientifique des deux, je n'ai pas encore les résultats à vous communiquer.
Mais l'étude qui avait été publiée là tout récemment, BACLAD, elle montre des résultats intéressants sur l'utilisation de ce baclofène, qui marche mieux que le placebo.
Alors évidemment, ça marche mieux que le placebo, mais l'enjeu, et ce n'est pas de dire que le baclofène marche ou ne marche pas, parce que ça fait très longtemps qu'il y a une RTU, on arrive évidemment à prescrire. Ce qui est intéressant maintenant, et ce sur quoi on attend ces deux protocoles, c'est sur la posologie, c'est-à-dire la dose, parce que là pour l'instant on est un tout petit peu dans le brouillard, et surtout les profils de patients répondeurs. Parce qu'évidemment...
Ça marche pas sur tout le monde.
Ça peut pas marcher sur tout le monde, c'est pas possible, on le voit dans la pratique. Et donc à partir de là, le baclofène prendra sa place dans l'arsenal thérapeutique, une vraie place, au même titre que ceux qui ont jusqu'à présent l'AMM, comme la Ota, le Revia, et le Selincro, qui est un produit qui est sur le marché depuis maintenant à peu près une année.
C'est ça, et donc on commence à avancer pendant longtemps. Quand vous veniez ici, vous disiez, mais on n'a rien finalement sur l'alcool, Là, on commence à avoir des traitements.
On commence à avoir des traitements, mais attention, ce sont des traitements qui rentrent dans un cadre de prise en charge globale. On n'a pas pour autant évacué la prise en charge habituelle, c'est-à-dire l'entretien motivationnel, ce qu'on appelle les démarches psychosociales. La maladie alcoolique est une maladie multifactorielle.
Il y a la place du
médicament.
Maladie,
C'est une vraie maladie. Il y a la place du médicament, mais il faut s'enquérir de. Vous me posiez la question à juste titre, Claire, tout à l'heure. Comment amener quelqu'un à consulter, si ce n'est par le média de la discussion, de la technique de communication. Et puis, une fois que le produit n'est plus là, il faut aider la personne à retravailler le vide laissé par l'alcool et retisser les liens environnementaux, d'abord familiaux, environnementaux.
Et avec tout toute la question de la rechute. C'est quand même une maladie où il y a beaucoup, beaucoup de rechutes.
C'est une des rares maladies, si ce n'est la seule, qui se définit par la rechute. La maladie alcoolique, la maladie addictive alcoolique à juste titre, à fortiori plutôt, se définit par la rechute. Et un bon addictologue, c'est quelqu'un qui a la patience de voir ses patients rechuter, de les remettre sur selle à chaque fois. Quand on n'a pas la patience, il faut changer de métier.
Justement, est-ce qu'on comprend un peu mieux pourquoi certaines personnes deviennent dépendantes et d'autres non ? Parce qu'il y a manifestement une injustice là-dessus.
Il y a une injustice, il y a une inégalité. Évidemment, l'inégalité s'exprime ici, mais elle peut se compenser par ailleurs. Il y a évidemment, on sait maintenant, il y a le niveau socio-économique, l'environnement, il y a la biologie, on est fait différemment, dont la génétique, il y a l'hérédité, il y a aussi le rôle du produit. Il y a des produits plus ou moins addictogènes sur des personnes plus ou moins vulnérables, avec des traits de caractère qui sont plus ou moins établis. Et donc tout ça forme un tout qui peut-être à un moment donné vous êtes confronté à un accident de la vie, comme vous le dites, et vous vous retrouvez à trouver une fausse solution à travers les addictions.
On a de nouveau Adnel qui nous appelle de Saint-Louis à Haïti. Adnel, on vous écoute. Parce que la ligne téléphonique est meilleure. Allez-y, on vous écoute.
D'accord, Claire. D'accord. Comme je disais tantôt, c'est un phénomène qui se déroule le lendemain du tremblement de terre. Après le tremblement de terre, tous les postes de travail devenaient très durs, devenaient très rares. Alors, les jeunes qui n'avaient rien d'autre à faire, pour se faire respecter dans la rue, ils fument le cannabis. Et c'est là le problème, parce que la majorité des jeunes dans le ghetto, dans les zones défavorisées, le prennent, parce que celui qui ne le prend pas est considéré comme un fainéant. Alors pour se faire respecter, pour se mettre en valeur, tous les jeunes dans les zones défavorisées le font.
Et le problème
le plus grave, c'est que ces jeunes-là entrent dans un gang, dans un groupe armé. C'est là le problème.
Et est-ce qu'il y a des centres de prise en charge en Haïti, justement, pour ces problèmes de dépendance ? Non. Il n'y a pas grand-chose. Une réaction, le professeur Beniamina, ce que vient de dire Adnel ?
Ben, c'est ce qu'on a juste dit, juste un peu avant. Mmh. On a quand même des événements. Là. C'est un événement qui est d'ailleurs documenté. Hein.
Les grands traumatismes,
les grandes catastrophes comme ça à l'échelle d'un pays sont associés à une augmentation de la prévalence des consommations de drogue. On a une très belle étude qui a été présentée il y a 2 ans au fameux congrès de l'Albatros dont on parle par Wilson Compton, qui est le responsable de la division épidémiologie ONIDA, le National Institute of Drug Abuse, qui lui a montré que la crise économique aux États-Unis et qui est arrivé 2 ans après ou quelques temps après en Europe, a été associé à une augmentation de la prévalence de la consommation des drogues. Et il faisait la comparaison avec les guerres, avec les catastrophes naturelles. Et donc, il n'est pas...
Un événement traumatique comme celui-là
commun peut aussi être associé à une augmentation de la consommation des drogues.
Donc on comprend pourquoi, et ça veut dire qu'il faudrait faire quoi ?
Il faudrait probablement anticiper les problèmes, ce type de problème, en même temps que les problèmes de maladies infectieuses, par exemple. Vous savez que les maladies infectieuses après un tremblement de terre...
C'est le gros risque.
Les problèmes de ravitaillement d'eau, ce sont des éléments, ou bien les traumatismes. C'est de la médecine qui semble confidentielle, mais c'est une médecine communautaire.
Ouais, mais on fait comment de la prévention sur ces questions-là ?
Eh bien d'abord, faire de la prévention. Alors pour le coup... Alors là, vous m'entendrez ça jamais le dire ailleurs, mais pour le coup de la prévention policière. Parce que les drogues arrivent, il faut un débordement au niveau de la sécurité, il faut faire attention. Et ensuite, travailler avec probablement des campagnes grossières mais importantes, parce qu'il y a une urgence autre sur les problèmes de drogue, tout ça. Parce que c'est une fausse solution immédiate que l'on offre pour pouvoir supporter la situation dans l'immédiat.
Merci beaucoup Adnel pour votre intervention. Et on a Alida qui nous appelle de Bujumbura au Burundi. Alida, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
J'aimerais donner mon intervention sur l'addiction à la drogue. Donc, à Bujumbura, c'est là où je me trouve. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent la drogue, surtout les adolescents. Et pour le voir, il suffit de voir que l'enfant sèche les cours. Quel enfant, il est violent. Mais aussi, quand les enfants partent à l'école le matin, il y a des fois où tu vois des jeunes gens qui passent là où il y a les chauffeurs de bus pour acheter de la drogue, donc pour se charger, comme ils aiment le dire, afin d'aller à l'école et de bien suivre les cours.
Et à Bujumbura, il n'y a pas de centre de prise en charge, hein?
À Bujumbura, il n'y a pas de prise en charge parce que la plupart des gens qui prennent la drogue, s'ils ont des problèmes mentaux, et s'ils ne sont pas des familles qui sont nantis, c'est-à-dire qu'ils sont laissés à eux-mêmes. On les voit qui s'emballent dans les rues, tout ni ou bien à moitié ni. Donc, il n'y a pas de centre de prise en charge. Il n'y a qu'un seul centre neuropsychiatrique. Et là, c'est pas qu'on ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas contenir tous les drogués ou tous les gens qui
ont un problème. Merci Alida pour ce témoignage. Le Burundi aussi confronté justement tous ces derniers temps à des événements politiques difficiles. Docteur Viviane Cissé-Dello, une réaction par rapport à ça? On le voit bien sur le continent africain, il y a très peu de centres de prise en charge de ces questions de dépendance. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est pas la priorité, il y a d'autres priorités, c'est ça en gros?
En fait, il y a ça d'un côté, mais de l'autre côté, il y a l'absence de preuves, en fait. Pour que les gens puissent réagir, le gouvernement ou bien le ministère, comme on l'a fait chez nous, il faut qu'il y ait quand même un travail qui soit fait, par exemple, comme on a fait au...
Épidémiologique.
Mm-hmm. Qu'on puisse prouver, en fait, que ça existe bel et bien. Qu'on puisse amener ces consommateurs à venir nous voir, sans pour autant les préjuger. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait.
Parce que pendant longtemps, on a dit, mais il n'y en a pas en Afrique, il n'y a pas de consommateurs.
Voilà, peut-être que c'est ce qu'on disait, mais il y a toujours de bonnes volontés qui se lèvent un jour, qui se disent, non, ça existe, il faut qu'on le démontre. Et après cette démonstration, il faut que l'État ou bien même le ministère de la Santé puisse faire quelque chose. Donc chez nous, c'est ce qui a été fait jusqu'à présent.
C'est ça, une étude épidémiologique qui montre la réalité sur le terrain et une prise en charge.
Voilà.
Et dans la prise en charge, vous dites aussi une prise en charge sans jugement, j'ai entendu ça.
Ouais.
C'est ça?
En fait, c'est parce que si vous amenez la personne à vouloir venir consulter, vous avez déjà un préjugé sur cette personne et elle va jamais venir, en fait, à l'hôpital. Surtout que chez nous, c'est pas quelque chose de tabou comme dans les pays du Nord, en fait. Les gens, en fait, parfois ont honte de dire que je prends telle drogue chez nous. Donc là, bon, si vous les amenez, bien sûr, à vouloir, en fait, s'exprimer sans pour autant se dire qu'ils vont être jugés par ailleurs, je crois que ça pourra aller dans le bon sens quand même pour la prise en charge.
C'est le début d'une bonne prise en charge. Professeur Benyamina, chez nous aussi.
Mais je crois que ça va venir dans les autres pays d'Afrique.
Tout à fait. Voilà. Professeur Benyamina, il y a aussi une honte hein, chez nous.
Bah, évidemment, c'est très compliqué. Vous savez, quand on hospitalise des gens chez nous, on donne des bulletins de situation pour l'employeur, il est jamais noté addiction, et encore moins psychiatrie. Évidemment, l'opprobre est toujours présente, même si elle est hypocritement formulée. Hein.
C'est ça, vous pouvez faire un arrêt de travail sans qu'il y ait mis que vous êtes psychiatre et addictologue.
Absolument, tout à fait.
Tout à fait. Ça, c'est important pour la question privée. Il y a deux choses que je vais encore aborder avec vous. D'abord, ce 9e congrès international d'addictologie de l'Albatros, vous allez évoquer justement toutes ces questions de dépendance. Quelles sont les points importants à aborder? Je sais que vous allez parler de l'alcool et du baclofène, bien sûr, mais pas que.
Alors, on l'a appelé, comme vous l'avez noté, évidemment, les addictions aujourd'hui et demain. Je pense que ce qui est important à montrer, on a essayé de faire, de montrer ce qui se passe. Ce qui a les avancées de la recherche et de la clinique dans l'année qui s'est écoulée. Et on a invité des gens qui sont porteurs de ce type de démarche. Puis on a invité par exemple Emmanuel Kunsch, qui est un chercheur suisse, qui connaît très bien la question de l'alcool chez les jeunes. C'est lui qui a tout écrit sur ce qu'on appelle le binge drinking, on en a parlé ici.
Et il va nous expliquer très rapidement chez les jeunes. Tout de suite.
Notre idée, c'est de comprendre les déterminants qui amènent finalement une jeunesse qui jusqu'à présent n'était pas intéressée par l'alcool à consommer. On invite également Raphaël Meschoulam, c'est le découvreur du cannabis, quoi, ou plutôt du principe actif, qui actuellement est à la tête d'une équipe qui est à la recherche finalement du meilleur profil du cannabis thérapeutique. Et donc cette évolution, qui est l'empreinte même de sa carrière, nous intéresse.
Parce qu'on voit arriver en France effectivement ce cannabis thérapeutique, parce que ça peut calmer des douleurs, c'est ça.
Les douleurs et même derrière ça, il y a tout le travail, ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages avec la substitution cannabique qui est en train de bien prendre dans les autres pays. Mais hélas, en France, on est coincé par la loi de 70 qui nous empêche de travailler dans ce sens. Et puis, on a affaire à des grands noms comme Georges Koub, le patron de l'alcoologie de la recherche aux États-Unis, Tamara Phillips. Et pour finir, Cocorico, on a à avoir la conférence de prestige avec Michel Lemoal, qui est le père de l'école de Bordeaux, l'école de la neurobiologie sur les addictions. Donc ça va être un beau moment où on va dire de choses importantes, où les cliniciens français auront à finalement ça, se confronter avec la grande recherche internationale.
C'est ça, vous faites le point sur les avancées dans ce domaine, et on avance quand même, on a l'impression toujours que ça n'avance pas assez vite. Dernière question,
oui.
Vous avez signé l'appel des médecins hospitaliers pour sortir l'hôpital public de la crise. On sait que beaucoup de personnels soignants se plaignent de l'état des hôpitaux publics en France, des difficultés que vous avez à travailler. Qu'est-ce que vous demandez concrètement?
Bah, écoutez, ça a été public, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été demandés. Bon, évidemment, l'hôpital est en crise. Pour les consommateurs, entre guillemets, ou les consommateurs que sont les patients, ils voient très bien qu'il est très difficile de les accueillir dans de bonnes conditions. Les listes d'attente pour prendre un rendez-vous sont énormes. Les équipes sont harassées. Il y a un vrai burn-out qui touche principalement les équipes dans les hôpitaux.
Tout le personnel soignant, hélas, hein, médecins, infirmières.
Ça fait peut-être peur, mais vous savez que les médecins hospitaliers sont très bien placés en matière, hélas, pour eux, en matière d'arrêt de travail, tentative de suicide, mais ils sont obligés de revenir.
Du burn-out.
C'est du burn-out. Et donc l'idée, c'est peut-être un peu d'ouvrir à travers ce texte des pistes hein, pour les décideurs. Notamment, je l'ai sous les yeux, on a 7 points sur lesquels on a voulu attirer l'attention des décideurs, notamment finir avec la dictature, ce qu'on appelle la tarification à l'acte, et pouvoir un peu donner d'autres éléments. Parler aussi du fait que on puisse peut-être s'ouvrir et non pas être enclavé sur l'hôpital vers la pratique extérieure. Et en même temps, on a des pistes pour faire des économies. On n'est pas simplement des pistes vers les économies. Par exemple, sur les médicaments génériques, en France, on continue à être parmi ceux qui prescrivent le moins. Je dis ça rapidement, mais l'idée, c'est de dire on n'est pas des inconscients consommateurs experts dans notre hôpital.
Et vous êtes déjà de nombreux médecins, professeurs de médecine à avoir signé cette pétition. Merci de nous en avoir parlé. Merci à tous les deux d'être venus. Bon congrès demain. Et on va finir en parlant de la fréquence des naissances à petits pois.
Priorité santé sur RFI.
Pour terminer, je vous propose donc de parler de la fréquence des naissances des bébés à petits pois dans les familles défavorisées. Lydia Panico, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'INED, à l'Institut National d'Études Démographiques à Paris. Peut-être que on vient de parler là pendant une heure de toutes les questions d'addiction et entre autres de l'alcool. Je me suis demandé justement s'il n'y avait pas quand même un lien entre ces naissances de bébés à petits pois et l'alcool.
Et donc, oui, effectivement, il y a un lien entre la consommation forte d'alcool dans la grossesse et d'être petit à la naissance. Mais en effet, en France, la consommation d'alcool dans la population générale est assez faible dans la grossesse. Et donc, dans notre étude, on ne retrouve pas que l'alcool joue un rôle très important.
Qu'est-ce qu'un bébé de petit poids? C'est en dessous de quel poids?
Donc un bébé à petit poids est un enfant qui pèse moins de 2,5 kg à la naissance. Et il est considéré comme un important indicateur de survie et santé de nouveau-né.
Quels sont les risques?
Donc les bébés qui ont un petit poids à la naissance courent plus de risques de connaître des problèmes de santé et développement. Comme par exemple les difficultés d'apprentissage, les déficiences auditives et visuelles ou des problèmes chroniques comme l'asthme ou le diabète, et dans l'enfance, mais aussi plus tard au cours de la vie.
C'est ça, et au cours des apprentissages, entre autres à l'école. Quelle est la fréquence justement de ces naissances de bébés à petit poids?
Donc en France, on est à peu près à 6% dans la population générale.
Et alors, ce que vous constatez dans cette étude, c'est que ça touche principalement les familles défavorisées. Est-ce qu'on comprend pourquoi?
Oui, donc dans l'étude, on montre que les ménages les plus défavorisés présentent un risque plus élevé de donner naissance à un enfant de petit poids. Pour exemple, on a montré que le risque d'avoir un enfant de petit poids est 50% plus élevé pour les femmes sans aucun diplôme par rapport à celles qui ont au moins le bac. On trouve, par exemple, que la consommation de tabac est plus importante dans ces groupes plus défavorisés et que la consommation de tabac joue peut-être un rôle en expliquant ces différences socio-économiques.
Comment cette étude a-t-elle été menée?
Donc, on a de la chance en France d'avoir un nouveau étude qui s'appelle ELF. ELF est une enquête qui suit le devenir de 18 000 enfants qui sont nés en France en 2011. Et c'est une enquête très très riche qui commence dans la maternité, quelques jours après l'accouchement, avec un suivi du dossier médical de la mère. Et après, tout au long de la vie des enfants, on a des entretiens avec les parents et éventuellement aussi avec les enfants. Et donc on utilise les premières vagues de ces données très très riches.
Cette étude ELF, on en a déjà parlé d'ailleurs dans l'émission, on en reparlera parce qu'elle va se mener sur de nombreuses années. En tout, combien d'enfants sont suivis justement?
Au début, on avait plus de 18 000 enfants. Donc, c'est un échantillon très, très grand.
Et qui vous permet justement de mener ce genre d'études. Une fois que, donc, que vous publiez cette étude en montrant justement qu'il y a une fréquence des naissances de bébés à petit poids plus élevée dans les familles défavorisées, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous préconisez?
Donc, on veut savoir quel sera le devenir de ces enfants. Est-ce qu'ils auront, comme on retrouve dans la littérature nationale, plus de difficultés de santé et de développement. Et aussi, on veut croiser un peu plus pourquoi ces familles plus défavorisées ont un risque plus élevé. On trouve que le tabagisme est important, mais il y a peut-être d'autres pistes, telles que le stress de la mère dans la grossesse, ses conditions de travail, est-ce qu'elle a pu prendre un congé maternité et quand.
Et c'est toutes ces questions que vous cherchez à voir. Merci beaucoup, hein, Lydia Panico. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques à Paris, et vous nous avez parlé de cette étude qui montre la fréquence des naissances à petit poids dans les familles défavorisées. Demain, le docteur Catherine Solano, qui est sexologue, répondra à vos questions. On va parler de l'éducation à la sexualité. D'ailleurs, vos parents vous ont-ils parlé de sexualité? Si oui, comment? Et vous aussi, d'ailleurs, comment en parlez-vous à vos enfants? C'est pas toujours d'ailleurs très simple. Vous pouvez dès maintenant nous poser vos questions au téléphone, 33 1 84 22 75 75 et bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.